L'émission qui aime les livres, les éditeurs et les auteurs, eh bien cette émission elle est programmée chaque mercredi à 21h sur Radion 90.5 dans Lyon, mais vous êtes, nous dit-on, de plus en plus nombreux à nous rejoindre régulièrement en direct via internet sur le www.radion.fr. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce 80e numéro de Wagon Livre. Oui, 80e numéro de Wagon Livre consacré au compte-rendu de la 16e fête du livre d'Anneau, station verte située en Saône-et-Loire, au cœur du Morvan, salon du livre d'Anneau qui s'est tenu les 21 et 22 juillet dernier. Nous y étions et nous vous proposons ce soir d'entendre quelques-uns des auteurs qui avaient décidé de se rendre en Saône-et-Loire à Anneau. Impossible, en tout cas, de ne pas tendre notre micro au romancier d'Anneau, à savoir Didier Cornaille. Didier Cornaille, dont le dernier roman, intitulé « Sur les cendres des ronces » aux éditions des Presses de la Cité, est le troisième volet d'une trilogie commencée avec « Les terres abandonnées » et « Les labours d'hiver ». Le dernier roman de Didier Cornaille aborde les problèmes rencontrés par les campagnes morvandelles qui perdent leur population en raison d'une société rurale ébranlée par la modernité. Didier Cornaille reste néanmoins confiant et pense que le monde rural que l'on pensait il y a quelques années condamné à disparaître va renaître sous une forme nouvelle. Didier Cornaille, au micro de Radion.
C'est une sorte d'énorme brassage qui est en train de se mettre en place, c'est encore très modeste, hein, mais qui est en train de se mettre en place et qui est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant. Et ça, c'est après avoir constaté ce déclin dans les deux premiers tomes, Les labours d'hiver, Les terres abandonnées, être resté sur ce... Et le deuxième tome se termine par le cri d'espoir de la vieille Marie Courbet, qui a l'optimisme chevillé au corps, qui est dynamique et qui dit « Mais l'avenir, sur les cendres des ronces, renaîtra l'espoir ». C'est la dernière phrase ou l'avant-dernière phrase des Terres abandonnées. C'est ce qui donne le titre du troisième volet.
D'un triptyque sur les cendres des ronces.
Trilogie.
C'est l'espoir. À Anneau, il y a des agitations, comme ailleurs.
Anneau, peut-être un cas particulier qu'on peut signaler, d'accord. Mais il ne faut pas croire que c'est le seul, hein, surtout pas. Il ne faudrait pas se focaliser là-dessus.
Les cendres des ronces, c'est l'espoir donc d'une herbe verte qui repousse sur le passé.
C'est que vous savez très bien que quand on donne du carbone, du carbonate, comme selon les cas, à la terre, c'est un amendement extrêmement fort. Hein, c'est de la chaux. Et ça fait repousser l'herbe. Hein? Et c'est donc ces ronces dans le, mais j'ai pas raconté le livre, dans les terres abandonnées, dans les labours d'hiver, ces ronces qui ont été brûlées parce qu'il fallait reconquérir un prêt. Au printemps suivant, les deux gamines sont sidérées de retrouver l'herbe qui a poussé et qui est très très verte. Parce qu'on a brûlé ces ronces. Hein? Donc sur les cendres des ronces, repousse l'herbe hein, de l'avenir.
Le romancier Didier Cornaille au micro de Wagon Livre pour son roman « Sur les cendres des ronces » paru aux éditions des Presses de la Cité. Un roman d'une grande justesse sur le thème de l'héritage et de la transmission. Henri Vincenot aurait eu 100 ans cette année. Pour cet anniversaire, autour de l'auteur de la Bibaude, l'éditeur Gérard Gauthier nous présente l'album Vincenot récemment paru aux éditions de l'Armançon.
C'était une demande à la fois de Claudine qui souhaitait accompagner l'exposition qui se tient au musée de la vie bourguignonne Perrin Puy Cousin et à la bibliothèque municipale de Dijon dans l'annexe de la nef. Et donc, très gentiment, les organisateurs se sont tournés vers moi puisque j'ai eu la chance de rencontrer Henri Vincenot pendant de nombreuses années. Je me suis occupé de lui quand j'étais chez Don Noël. Je suis un peu à l'origine de la publication de la Bibaude, et tout cela faisait que les organisateurs et Claudine Vincenot avaient envie que l'on puisse laisser une trace de tout ce travail qui a été fait par les équipes du musée et par les équipes de l'ABM. C'est évidemment avec plaisir que moi j'ai accepté, parce que ça me rappelait beaucoup de souvenirs, une grande partie de ma carrière en tous les cas, et puis une amitié réelle que j'avais, enfin qu'en tous les cas que André et Henri Vincenot avaient pour moi et que j'avais pour eux. Donc j'ai dit oui, et à partir de là, tout s'est enchaîné. Nous avons réuni le maximum de documents, et si possible des documents qui n'avaient jamais été vus. Certains sont à l'ABM, d'autres sont au musée de la vie bourguignonne, et puis d'autres sont sortis de la pochette surprise, mais de nos archives à Claudine et à moi, pour compléter l'ensemble et faire que cet album reflète la personnalité extrêmement variée et multiple, parce qu'il avait de multiples talents, d'Henri Vincenot. On retrouve évidemment l'Henri Vincenot écrivain, c'est la fin de l'album. On retrouve Vincenot peintre, on retrouve Vincenot sculpteur, Vincenot constructeur en quelque sorte, architecte, avec l'aventure du hameau de La Purie. Et puis je dis La Purie parce que c'est le nom exact, Claudine l'explique d'ailleurs un peu dans l'album, Purie, Puriot, petite rivière, et ça s'est transformé dans le langage courant par Pourie, ce qui n'est quand même pas très flatteur, le nom de Purie est quand même plus joli. Et donc on a cette aventure, on a le théâtre, car c'est le théâtre qui a fait connaître Henri Vincenot en ce qui concerne l'écriture. Mais on s'aperçoit déjà dans cet album qu'avec le théâtre, il avait fait des décors, il a fait des costumes. Donc on voit là le peintre naît. Et puis le sculpteur, car il a jeune, il a commencé par sculpter. Et bien évidemment,
Saint-Vincent.
Alors il y a des sculptures qui n'étaient que des sculptures familiales, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vendu les sculptures, alors que sa peinture, il la vendait. Il a commencé par la vendre à Paris, puisqu'ils habitaient Paris pour, à ce moment-là, soigner Jean-Pierre, le fils aîné, qui était sourd-muet, donc qui était à l'Institut Boulevard Saint-Jacques. Et puis ensuite, il a fait ses sculptures aussi pour sa femme. Donc tout cela était resté très, très, comment, très personnel. C'est les sculptures sont dans l'ensemble réunies au musée au musée d'art sacré à Dijon pendant le temps de l'exposition sur le centenaire de sa naissance. Et puis on a le Vincenot l'ailleurs, car Vincenot était bourguignon certes, mais il avait deux grandes passions en quelque sorte: la Bretagne, où il avait été tout jeune avec ses parents pour se soigner d'une pleurésie, et puis le Maroc, qui a été certainement sa grande rencontre. Et on le retrouve
où il a fait son service militaire,
où il a été
blessé d'ailleurs.
Absolument, et où il retourne lorsque sa fille et son gendre iront en coopération pour enseigner. Et donc de ce voyage en Maroc, il a laissé deux carnets, un carnet fait dans les années 32 et un autre carnet dans les années 70, 72, 73. Et là c'est l'aspect, on voit tout le travail préparatoire de ce qui ont donné les dessins magnifiques qu'il avait fait après dans les années 60-70. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble, et puis la partie famille, les racines, donc sa Bourgogne et sa famille qui comptaient énormément. Voilà, c'est l'ensemble de cet album sur 128 pages entièrement en couleur.
L'album Vincenot, présenté par Gérard Gauthier, éditeur et créateur des éditions de l'Armançon, installé à Précy-Soutil en Côte d'Or, une belle maison d'édition régionale créée en 1987. On aura d'ailleurs l'occasion de fêter l'anniversaire des 25 ans des éditions de l'Armançon en compagnie de son créateur, Gérard Gauthier. Ce sera dans quelques mois. Toujours sur Radion et à bord de Wagon Livre. Pour l'heure, je vous laisse en chanson. Voici Michel Delpech, Le Chasseur.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Perdreau par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.
Radion. Radion. Michel Delpech, il y a quelques minutes sur votre radio locale, toujours à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. La suite ce soir du compte-rendu du Salon du Livre d'Anneau avec Dominique Drouin, auteur d'un roman intitulé Tiroir, tiroir. Rencontre avec l'auteur à qui j'ai préalablement demandé, avant d'évoquer l'intrigue et l'ambition littéraire de son texte, d'expliquer pour quelles raisons il avait placé son roman sous l'influence de Marcel Proust.
Le portrait de Marcel Proust, ici, il est au titre du logo de la petite maison d'édition que j'ai créée, qui s'appelle Scriptosum, et qui est donc la fusion entre la fusion latine entre le scripto, l'écriture, et le sum, le je suis, c'est-à-dire pour bien mettre en relation l'écriture et l'existence, pour dire en fait que pour moi l'écriture a une dimension existentielle.
J'écris donc j'existe, voilà. J'existe donc j'écris.
Voilà, exactement. Alors Marcel Proust, bon, je ne vais pas en faire le secret, c'est pour moi mon mentor,
c'est le maître,
c'est le Zeus du panthéon littéraire. Alors pourquoi particulièrement il a été utilisé dans cette pourquoi j'ai commencé à publier Tiroir Tiroir plutôt que d'autres qui sont déjà écrits mais qui ne sont pas encore publiés, et bien c'est justement parce que dans un roman, enfin moi j'aime assez l'image du roman comme organisme végétal, donc ça veut dire un terreau plus qu'un terroir, un terreau qui est forcément biographique, à l'intérieur duquel va germer, hein, il y a un germe. Le germe, donc le terreau est biographique. Le germe, ça a été le premier paragraphe de cet ouvrage. Et en tirant un petit peu, en laissant germer, en tirant un petit peu les fils de ce premier paragraphe, ça a donné ce roman totalement fictionnel. Voilà. Alors, on va dire juste la courbe qui justifie un petit peu la référence à Proust, c'est en fait l'histoire d'une recherche d'éditeur avec donc une ambition éditoriale qui finit par se tarir par l'insuccès de cette recherche d'éditeur, et qui emmène en même temps l'ambition littéraire elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le rebours même du parcours du narrateur proustien, puisque en fait Proust, à la fin de la recherche, se découvre et devient écrivain, alors que le parcours du tiroir-tiroir, c'est plutôt le chemin inverse, hein, de l'ambition éditoriale vers la fin de l'ambition littéraire et la résignation à la vie.
Lorsqu'on a posé Proust comme le mentor, forcément, on a posé tout de même la barre très, très, très haut. Et Dominique Drouin, vous êtes, en tout cas, et on peut l'entendre, particulièrement méticuleux sur le choix des mots, le choix du mot juste. La phrase, alors je vous ai pas encore lu intégralement, mais cela viendra et j'aurai grand plaisir à vous accueillir pour une émission complète à bord de Wagon Libre. Mais la phrase est très travaillée. On sent quand même un vrai exercice de style. Et j'imagine qu'aussi, il y a une souffrance derrière cette écriture.
Merci d'avoir déjà repéré ce travail la langue, en fait, sur l'écriture. Alors, pourquoi souffrance
Il y a un effort. En tout cas, il y a un effort qui peut s'apparenter quand même à. Il y a l'effort du cycliste, par exemple, quand il pédale. L'écrivain, il y a cette souffrance quand même de la belle phrase, de la phrase un peu longue, travaillée, la phrase ciselée, sorte d'écriture orfèvre, écriture artiste.
Tout à fait. Mais alors, pour moi, ça ne relève. C'est pour ça que je voyais pas où vous parliez de souffrance, parce qu'il n'y a sans doute pas de souffrance, et peut-être, je dirais, l'effort, il est presque... Il y a évidemment un effort, mais je dirais que c'est un petit peu comme ça que s'encapsule quand même ma pensée dans la phrase. Quand les choses me viennent par écrit, j'ai des ajustements à faire, mais elles me viennent d'emblée comme ça, avec des incises, et après je les retravaille un petit peu, mais globalement la phrase est quasiment fabriquée, elle sort comme ça en fait du cerveau, on va dire, pour arriver sur le papier.
Artisan de l'écriture, Dominique Drouin, tiroir. De quelle manière peut-on se procurer votre roman? Vous avez aussi un blog?
Oui, j'ai un site qui s'appelle scriptogramme.free.fr et on peut le trouver par là. Sur certaines librairies aussi, il est disponible à Autun notamment, la librairie du passage, et puis dans les salons évidemment, dont celui-ci d'année.
Tiroir, donc, de Dominique Drouin, donc c'est aux éditions
Scriptosum.
Le salon du livre d'Anneau, comme si vous y étiez, un charmant petit salon du livre qui se tient donc dans la station verte d'Anneau, au cœur du Morvan. C'était les 21 et 22 juillet dernier. Petit salon qui réunit auteurs, éditeurs et bouquinistes. Et à cette occasion, donc, nous avons fait quelques rencontres sympathiques et agréables, notamment avec Bettina. Bettina est née à Autun en 1957. Elle est passionnée par l'écriture. Elle vit actuellement en Bourgogne et nous l'avons rencontrée autour de son premier roman qui a pour titre « Danser au bord des abîmes ». Entre fables, contes et romans, on rit parfois, mais on s'effraie aussi de l'incohérence des êtres, d'un monde où la folie et la mort sont à l'œuvre et où l'amour lui-même semble n'être qu'un songe. Bettina, au micro de Wagon Livre.
Alors, l'intrigue, il s'agit d'un personnage qui parle à la première personne, qui s'appelle Méliné Mauvert, et qui va vivre de multiples aventures à cause d'un métier très particulier que je ne peux pas révéler, qui est justement un petit peu la découverte des quelques premières pages. Et de fil en aiguille, c'est un peu comme un récit, je dirais... comment on pourrait dire, je rapprocherai des mille et une nuits, quoi. C'est une sorte de conteuse, hein, finalement, au présent, et qui va faire des rencontres et peu à peu grandir, changer, vivre sa vie, enfin voilà. En revanche, elle va rencontrer des personnages hauts en couleur qui vont, eux, et elle va enquêter sur eux. Voilà.
Alors, la quatrième de couverture précise, entre fables, contes et romans, on rit parfois, mais on s'effraie aussi de l'incohérence des êtres, d'un monde où la folie et la mort sont à l'œuvre et où l'amour lui-même semble n'être qu'un songe.
Je pense que ça dit à peu près tout, enfin beaucoup de choses sur le fond. Tout en ne révélant pas l'aventure elle-même, mais Bon, on a tout ça en filigrane, effectivement.
Ouais. Est-ce que c'est un roman qui donne le vertige, vu son titre « Danser au bord des abîmes » ?
Alors, ce titre, je peux expliquer d'où il vient. Il vient du Gai Savoir de Nietzsche, qui, dans un de ses... je ne sais pas comment on peut les appeler, ce sont des séquences assez courtes, explique ce qu'est l'homme libre à son avis. Hein, et il explique que l'homme libre est celui qui va même jusqu'à danser... Enfin, qui va danser jusqu'au bord des abîmes. Donc peut-être une tentative d'être libre dans un monde un peu ficelé.
En tout cas, liberté a poussé jusqu'à une certaine audace peut-être, jusqu'à la chute peut-être, même le risque de la chute.
Risque de la chute.
Danser au bord des abîmes. Tel est le titre donc du premier roman de Bettina que vous venez d'entendre il y a quelques secondes à notre micro. Le roman de Bettina est disponible auprès de l'auteur ou sur le site lulu.com. Vous pouvez également commander le roman sur le site L'Atelier des Métamorphoses ou tout simplement rejoindre Bettina sur les réseaux sociaux. Sa page a pour titre Bettina auteur. Avant de marquer une nouvelle pause musicale, je mentionne la dernière livraison de Pays de Bourgogne, un très beau trimestriel, c'est le numéro 233, qui est entièrement consacré aux sources miraculeuses. Alors effectivement, le précédent numéro de Pays de Bourgogne était consacré au thermalisme en Bourgogne. C'est donc un numéro complémentaire qui fait le point département par département sur toutes les sources et fontaines aux vertus miraculeuses. Alors, la fontaine Sainte-Geneviève, par exemple, à Auxerre, était réputée fécondante pour les femmes stériles. Enfin, village par village, petite ville par petite ville, vous saurez tout sur les sources miraculeuses. C'est dans le dernier numéro de Pays de Bourgogne. Avant de continuer ce compte-rendu du Salon du Livre d'Anneau qui s'est tenu en juillet dernier dans le Morvan, je vous propose d'écouter Pauline Paris, jeune chanteuse de 27 ans, qui en août dernier se produisait dans le pays avalonné. On aura d'ailleurs l'occasion de l'entendre dans Wagon Livre, mercredi prochain à partir de 21h. Voici Corrida, Pauline Paris.
Son signe astrologique est celui du lion. Il a l'esprit scientifique, bien trop logique. Mon signe astrologique est celui du taureau. J'y comprends rien. C'est bien ça Loïc. On n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour se comprendre. On ne parle pas la même langue, sauf quand on est dans le même lit. Alors là on sait tout, l'alphabet de A à Z. On joue avec les mots, on fait des scrabbles en même temps. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. Une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. Me dit-il à chaque fois, on brise la division quand on se quitte match nul. On cible tous les deux l'arbitre, c'est notre seul point commun. Carton jaune, carton rouge, on se met toujours hors jeu. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on ne fait pas de contre tous. On n'est pas de la même race, mais on chante le même refrain. L'amour est enfant d'OM, on garde les deux duellistes. Reculez, ne dites pas, tournez-vous et chargez. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. toréador. Mais oui, c'est mon toréador.
C'était Corrida, interprétée par Pauline Paris, jeune chanteuse de 27 ans qui a fait paraître son deuxième album intitulé Le Grand Jeu. Pauline Paris sera devant notre micro mercredi prochain, 12 septembre, à partir de 21h, toujours sur votre radio locale. Revivons le Salon du Livre d'Anneau ce soir, 16e édition qui s'est tenue les 21 et 22 juillet dernier au cœur du Morvan. Un salon du livre riche en rencontres. Nous avons d'ailleurs donné la parole à Christian Amstadt pour son roman « Les larmes d'Agathe », sous-titré « Être femme dans le Morvan », paru au début de cette année aux éditions Raison et Passion. J'ai d'abord demandé à Christian Amstadt de se présenter à notre micro.
Je m'appelle Christian Amstadt, j'ai 61 ans et je suis poète depuis déjà une vingtaine d'années, peut-être même 25 ans. Et j'ai écrit un roman l'an dernier qui est paru aux éditions Raison et Passion et qui s'appelle Les larmes d'Agathe. Sinon, que dire de plus, je suis à la retraite, une retraite pour moi bien méritée, bien entendu. Et donc ma passion première était la poésie et puis je me suis tourné vers le roman.
Alors vous avez donc fait paraître un premier roman, Les larmes d'Agathe, sous-titré Être femme dans le Morvan, c'est aux éditions Raison et Passion. Et alors votre roman, vous l'avez dédié, je vous cite, au Morvan, à tout ce qu'il représente pour moi, à tous ceux pour qui la vie n'est qu'une succession de défis. Pourquoi une telle dédicace ?
Eh bien, tout d'abord, j'ai habité le Morvan quand j'étais enfant. Et là, j'ai connu donc pas mal d'enfants qui étaient malheureux, qui étaient d'assistance publique. Tous n'étaient pas malheureux, bien sûr, mais quand même la plupart. Et l'idée du roman m'est venue justement pour remettre cette époque un peu au goût du jour, si je puis dire. D'autant plus que c'était à l'époque de la guerre d'Algérie, où se tramaient des choses pas très belles. Et donc le roman tourne autour de cette guerre d'Algérie. Et bien sûr, ceux qui en sont sortis et savent ce qu'est le poids de la vie, les difficultés de s'en sortir quand on a vécu des moments si difficiles. Et donc, ce roman est donc dédié un peu à tous ceux qui ont beaucoup souffert et qui se ressourcent par la suite.
Dans le magazine Vent du Morvan, Pierre Léger a fait une chronique de votre livre dans la page critique livre. Alors bien sûr, vous l'avez dit, Christian Amstadt, vous évoquez la guerre d'Algérie, vous parlez aussi de la condition féminine. C'est donc les hommes qui en parlent le mieux de la condition féminine ?
Eh bien, je ne sais pas, mais c'est une femme qui m'a dit ça récemment, qui avait lu l'ouvrage, voyez. Alors, c'est peut-être vrai, je n'en sais rien, mais au-delà effectivement du drame qui se passe en Algérie et du sujet même du livre, j'ai voulu mettre en évidence le problème des femmes de cette époque, fin des années 50, début des années 60, où elles étaient souvent encore en retrait de leur mari, elles étaient confinées à des tâches ménagères ou à la ferme, et grâce un peu à notre héroïne de ce roman, eh bien, elles vont commencer à se libérer, si je puis dire, et à s'émanciper.
Alors vous parlez aussi de la désertification des campagnes.
Oui.
Hein, c'est un sujet qui reste quand même d'une brûlante actualité. Là, au moment où vous en parlez dans votre roman, c'est le début d'une forme de désertification du monde rural.
Oui, enfin, au début, ça avait déjà commencé auparavant, mais ça s'est intensifié, effectivement, à ces années-là où tout le monde, durant ces années-là, où tout le monde partait travailler à la ville, voulait aller habiter à la ville. On commençait à avoir des automobiles, donc on se déplaçait plus facilement et on n'allait plus faire ses courses au village, à la petite épicerie, mais au premier supermarché qui fleurissait dans les villes. Et bien sûr, les commerces fermaient, les cafés aussi, et puis donc le pays semblait tomber un peu dans une sorte de léthargie.
Votre roman, c'est très amusant, le tout début, la toute première phase, évoque les larmes d'Agathe et le mot, l'adjectif qui termine votre roman, c'est l'adjectif heureuse. Et le roman commence dans les larmes et se termine par le bonheur. Alors je n'ai pas raconté bien sûr ce qu'il y a entre ces deux états émotionnels, mais finalement il semblerait que le dénouement soit plutôt positif.
Tout à fait. J'ai voulu un dénouement positif parce que justement tout part d'une jeune fille assez malheureuse, dont l'avenir paraît tout à fait terne, et puis qui, grâce entre guillemets à des événements tragiques, va finir par se révéler et devenir pleinement responsable de sa vie, de ses actes, et être heureuse.
Les larmes d'Agathe, sous-titré Être femme dans le Morvan, c'est un roman de Christian Amstadt que vous pouvez vous procurer auprès de vos libraires aux éditions Raison et Passion, Passion avec un S. Vous pouvez aussi commander, consulter et découvrir le catalogue de cette maison d'édition via internet sur le www.raisonetpassion.free. Je répète, www.raisonetpassion.free. Mettez bien un S à passion. Suite du compte-rendu de la 16e fête du livre d'Anneau qui s'est tenue les 21 et 22 juillet dernier au cœur d'un Morvan toujours aussi verdoyant, nous y avons rencontré Laurent Janin. Laurent Janin est photographe et en 2009, il s'est rendu à Cuba. Sur place, il découvre l'île, ses habitants qu'il photographie et, fruit de ce périple lointain et exotique, Laurent Janin on a ramené un beau carnet de voyage qui offre de très beaux clichés noirs et blancs qui vont au-delà de la fonction décorative de l'image. Les photographies pour Laurent Janin sont celles qui questionnent et c'est avec cette ambition qu'il présente les photos prises à Cuba sous le titre « Cuba non conforme ».
On me dit que je suis photographe. Effectivement,
c'est pas vous qui décrétez que vous êtes photographe.
Non, parce que
on
pour moi,
défini comme photographe.
Voilà, parce que moi, je me considère pas comme photographe. Et comme je vous le disais avant notre interview, pour moi, le photographe, c'est la personne qui va mettre en scène, qui va faire poser les gens, qui a un projet. Alors que moi, je me situe plutôt dans l'instant. Pour moi, c'est l'instant qui compte, l'instant signifiant. Le monde est pour moi, un chaos. Et de temps en temps, le temps d'une fraction de seconde, il s'ordonne. Et là, il devient intéressant. Et une seconde avant, il n'y a pas de photo. Une seconde après, la photo a disparu.
Alors, vous redonnez du sens voilà. À ce qui est éparpillé, alors.
Exactement.
Vous
de temps en temps.
L'unité.
Oui, le temps, c'est le temps qui compte. Photographier des paysages m'intéresse assez peu, finalement. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une géométrie. Voilà, pour moi, c'est la géométrie offerte par le hasard qui donne sens à ce qu'on voit. J'essaie d'aller au-delà de la fonction, on va dire, purement décorative de l'image. Pour moi, une bonne image, c'est une image qui questionne.
Qui a une valeur argumentative aussi, donc.
Aussi, voilà.
Et alors, c'est le cas, justement, avec votre ouvrage, intitulé « Cuba non conforme ». Vous avez eu le bonheur de vous rendre à Cuba, il y a maintenant quelques années.
Oui, c'était en 2009. Donc, j'avais un projet déjà. Hein. Je me disais, c'est la fin de l'ère Castro. Il y a quelque chose qui va bouger. L'histoire est peut-être en train de se faire. Il est intéressant d'y aller. Donc, on a tout un tas de préjugés. Hein. C'est vrai que par rapport au régime, par rapport au mode de vie des gens là-bas. Et ce qui m'intéressait d'aller, c'est d'aller au-delà de ces préjugés. Donc, faire table rase et d'aller à la rencontre des gens. Ma foi, j'ai dégoté une vieille Chevrolet. Elle avait plus de 50 ans. Elle devait être de 57, je crois. Parce que de toute façon, il n'y a pas de véhicule tellement plus récent là-bas, mis à part quelques véhicules soviétiques qui ont été importés dans les années 70. Mais voilà. Ça s'était fait de façon non officielle parce que les gens n'ont pas le droit de faire de l'argent comme ça. Bon, ça s'est arrangé. Donc là, là, je fais un off par rapport à ça. Et donc je poursuis. Et donc ce véhicule très ancien, donc c'est, il tombait régulièrement en panne parce que là-bas, c'est ça se réparait des bouts de ficelle, les pneus étaient lisses, donc ça crevait souvent, etc. Mais c'est souvent, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des gens parce que je suis pas mécano, je suis peut-être pas photographe, mais encore moins mécano. Donc j'avais besoin d'être rentrer en contact avec les gens pour qu'ils m'apportent leur aide. Voilà, et donc ça m'a permis de rencontrer des gens, d'avoir des contacts privilégiés, au-delà, j'allais dire, des rapports un peu négociants qu'on peut avoir entre le touriste et l'autochtone. Voilà, et pour moi, ce véhicule a été un passeport.
Laurent Janin, photographe pour Cuba non conforme, un carnet de voyage de 80 pages qui rassemble 46 photos noir et blanc sur papier brillant. Laurent Janin qui expose jusqu'au 23 septembre prochain à Bourbon-Lancy, c'est dans Saône-et-Loire, pour nous iconés c'est un peu loin. Néanmoins, vous pouvez très facilement retrouver les photographies de Laurent Janin sur son site internet d'Iaventure, D-I-A, V-E-N-T-U-R-E, d'Iaventure, et vous y découvrirez avec bonheur et émerveillement le travail du photographe qui propose des clichés pris aux quatre coins du monde. Ambiance musicale ensoleillée qui fleure bon l'exotisme et l'ailleurs, eh bien oui, rythme cubain, voici Filiberto par Compe Segundo.
Ciega y tonta, nacieron por mi locura. Dedicarle a Delia y esta inspiración al ser insensible, que duda lo cierto, que esta es mi respuesta, muere sin amor. Negarle al tiempo que por ti sentía la inmensa duda, mi alma envenenó. Ay caramba muchacha, cantarte más, ay cantarte más, ya sería volcar en mí la felicidad. Concede a mi alma, Delia misteriosa, la fe vanidosa de tu voluntad. Allá. Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer?
Au cœur de la Bourgogne, 90.5, et partout dans le monde sur radion.fr.
C'était Compe Segundo sur votre radio locale. 80e numéro de votre émission littéraire Wagon Livre vous propose ce soir un compte-rendu de la 16e fête du livre d'Anneau, petite commune de 700 habitants en Saône-et-Loire, situé à 24 km d'Autun et à 20 km de Château-Chinon. Et c'est là que nous avons croisé l'auteur d'un roman intitulé « L'orphelin du lac », disponible aux éditions Charoumu. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Simone Chanet-Munch.
Alors, je suis professeure à la retraite. Et depuis que je suis en retraite, j'ai écrit 10 romans. 5 sont publiés. Je viens d'en publier un 5e donc cette année. Il y en a un 6e qui paraîtra l'année prochaine. J'écris en fait de la fiction. En fait, je me suis raconté très tôt des histoires quand j'étais petite, enfant. Et maintenant, j'écris des romans.
Alors, parlons justement du dernier roman qui est décliné en deux volumes et qui a pour titre « L'orphelin du lac ».
Alors,
quelle en est l'intrigue? Et vous nous promenez à la fois dans les espaces,
ah oui,
et dans le temps, dans l'histoire.
Alors, dans l'histoire, d'abord, c'est cet orphelin, Franz, on va le suivre de la mort de sa mère quand il a 9 ans jusqu'à sa mort. Donc, ça fait la fin du 19e siècle, en fait. Et on va beaucoup se promener parce qu'après avoir subi quelques humiliations dans son enfance, il va finir par découvrir un trésor précolombien au Pérou. Donc il y a des aventures au Pérou. Ensuite, ce trésor avec l'ami qui l'avait emmené là-bas, ils vont passer presque 2 ans à écouler les pièces de ce trésor dans les différentes grandes villes européennes auprès de collectionneurs pas trop regardants sur sa provenance. C'est le blanchiment avant l'époque, de façon à le transformer en une fortune présentable.
Alors, quels sont les éléments déclencheurs qui vous permettent de trouver les intrigues, la psychologie des personnages?
Je pars d'une idée.
Vous partez d'une idée?
Je pars d'une idée.
Mais y a-t-il des recherches historiques?
Ah oui, après, quand il s'agit de finaliser cette idée, de la placer dans un cadre, de la développer, bien entendu, on peut pas raconter n'importe quoi, donc il y a beaucoup de recherches.
Vous êtes toucheuse, oui, de vérité ici.
Ah oui, oui, quand même, oui. Et là, l'idée déclencheuse, en fait, c'est qu'un orphelin revienne des années plus tard dans une propriété d'où on l'avait chassé, où on l'avait humilié quand il était enfant. En fait, mon idée de départ, c'était ça. Mais alors après, comme elle a été en gestation pendant plusieurs années, elle s'est étoffée, et donc après c'est devenu, il y a eu cette histoire de trésor qui n'était pas prévue au départ. Mais d'un autre côté, il faut bien expliquer comment il va pouvoir faire fortune pour revenir en maître là où on l'avait fait servir, où on l'avait fait exploiter en fait.
L'orphelin du lac, roman de Simone Chanet-Munch, dont les livres sont disponibles sur le site internet des éditions Charoumu. Petite page et petite plage de poésie dans notre émission en compagnie d'Isabelle Monin, enseignante de lettres en Haute-Marne. Avec son éditeur Vermifuge, elle a organisé en juin dernier à Dijon un festival biennal de littérature contemporaine. Isabelle Monin nous présente son recueil de poésie intitulé « Trois fois rien des astres », paru donc aux éditions Vermifuge.
C'est un recueil de poésie très diversifié.
Poésie en prose ?
Poésie en prose ou en vers, donc on a à la fois le côté d'inspiration un petit peu plus classique, qui rappelle les origines de mes inspirations, et des choses beaucoup plus modernes, qui s'inscrivent au cœur du présent, un présent qui est en quête de son propre sens, au cœur de notre monde actuel, dans ce qu'il a de noir, d'inquiétant, et qui peut être sauvé par l'amour, le thème éternel cher au poète, à tout le monde, à l'humain. C'est de la poésie qui s'inscrit dans la matière du langage présent, actuel. Le langage dans ce qu'il permet en termes de jeu de mots, de jeu de sonorité, de jeu dans la mise en page également. Parce que tout ce langage est trempé aujourd'hui dans une soupe de nouvelles technologies, comme l'évoque la photo de la couverture.
Oui, alors il faut dire qu'en couverture donc, de votre recueil de poèmes, « Trois fois rien des astres », il y a en fait une assiette creuse dans laquelle se trouve, j'allais dire, un bouillon de touches de clavier d'ordinateur, et une cuillère est plantée au milieu de ce bouillon de petites pièces que l'on trouve sur un clavier d'ordinateur.
Oui, alors cette photo m'avait vraiment frappée, et je me suis dit c'est vraiment une photo qui représente exactement l'influence que peuvent avoir les nouvelles technologies sur notre langage et donc notre mode de pensée actuellement. Voilà, et c'est cette idée-là qui ressort aussi dans les textes très contemporains que j'écris.
Isabelle Monin. pour « Trois fois rien des astres », 94 pages de poésie disponibles aux éditions Vermifuge, des éditions créées par Perrin Grimard. Place à nouveau à la photographie avec des clichés noirs et blancs de Daniel Thévenin, des clichés rassemblés sous le titre « Rencontre ». Ancien élève des Beaux-Arts, Daniel Thévenin est actuellement graphiste et photographe à la ville d'Autun. Elle nous présente l'album photo qu'elle a réalisé et qui s'intitule donc « Rencontre », rassemblant une quarantaine de portraits de Morvandio.
Il y a effectivement des portraits, il y a des gestes d'ébéniste, etc. Et pourquoi ce livre noir et blanc ? Parce que je suis effectivement des Beaux-Arts, que j'adore le noir et blanc. Et bon, limite au niveau des portraits, parce que ça a un coût financier et que je pouvais pas plus. Il y a une soixantaine de pages, il y a une quarantaine de portraits, je pouvais pas plus. Et donc il y a eu une inauguration officielle de ce livre où tous les gens, sauf deux personnes qui sont malheureusement décédées dans ce livre, sont venus dédicacer, donc très fiers. Ils étaient venus du Haut-Morvan en costume, cravate, inauguration, signature en face de leur portrait, et ça a été un bonheur et pour eux et pour moi.
Daniel Thévenin, ils ont posé ces Morvandiaux pour vous ? Vous les avez saisis un peu comme ça à l'improviste ?
Parce qu'on a l'impression des portraits,
quand même qu'ils ont posé.
Il y a des portraits posés, il y a des portraits à la volée. Il y a les deux.
Et vous avez voulu comme ça rendre compte d'une certaine réalité de l'humain en Morvan ?
Non seulement de l'humain en Morvan, mais je trouve que ces images-là se perdent. Il y a très peu, je voulais des intérieurs qui n'aient pas trop bougé depuis 50 ou 100 ans, des gens pris dans leur maison, dans leur jus, et là ça disparaît, donc c'était temps de le faire. Il y a des portraits qui datent de 10 ans, il y a des portraits qui datent de 3 ans, et je voulais les mettre en image et les remercier à cette occasion-là.
Daniel Thévenin, au micro de Wagon Livre, pour évoquer son recueil de photographies en noir et blanc, rassemblées sous le titre « Rencontre » au pluriel, avec une préface de Claude Johannel. Daniel Thévenin est aussi l'auteur, avec Bernard Moreau-Gaudry, d'un très beau livre d'art intitulé « Patrimoine industriel ». Je voudrais d'ailleurs à cette occasion saluer Bernard Moreau-Gaudry, écrivain, qui a publié plusieurs ouvrages d'histoire et d'art contemporain. Il est président national de l'Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels. Et je tiens aussi à préciser que Bernard Moreau-Gaudry, que nous avons reçu l'an dernier pour son roman historique médiéval « La tentation d'Ève », s'est vu justement décerner le 5 août dernier le prix littéraire Henri Perruchot. Donc nous saluons Bernard Moreau-Gaudry et nous le félicitons une fois de plus. Le prix d'études de Morvandel Marcel Vigreux a été lui décerné à Emmanuel Jouet pour son livre intitulé « La révolte des enfants des Vermiraux » aux éditions de l'Œil d'Or dans la collection Mémoire et Miroir. Emmanuel Jouet, que nous avions également reçu dans Wagon Livre sur Radion l'année dernière. Les prix littéraires du Morvan ont été décernés le 5 août dernier lors du 19e Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre. On se retrouve dans quelques minutes, toujours à bord de Wagon Livre, pour le compte-rendu de la 16e fête du livre d'Anneau. On écoute Dalida, Itsy Bitsy, Petit Bikini.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine, elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi ? Son petit, ici, ici, tini, wini, tout petit, petit, bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Elle, ici, ici, tini, wini, tout petit, petit, bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2, 3, voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine, elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi ? Son petit, 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 bikini, oui, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle, petit, petit, bikini, oui, tout petit, petit.
1, 2, 3, savez-vous ce qui arriva?
Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler.
1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi?
Son petit, itty bitty teeny weeny, tout petit petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Un itty bitty teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse.
Radion à Auxerre, 95.
Présent au Salon du Livre d'Anneau le 21 juillet dernier, Marc Rosanski évoque pour nous la vie d'un peintre oublié à tort aujourd'hui, peintre né en Pologne et mort dans l'Yonne en août 1891 à Avallon. Marc Rosanski a retracé et suivi le parcours de cet artiste dans un remarquable livre paru aux éditions de l'Armançon et qui a pour titre « Un peintre polonais sur les bords du Cousin ». Partons donc à la rencontre de Théophile Fiatkowski, peintre polonais, ami de Chopin, qui, en épousant une riche noble d'Avallon, a offert de très belles vues à la touche romantique de la vallée du Cousin et de l'Avallonnais.
Il est tombé amoureux d'une femme qui était une veuve, quand même de 50 ans, puisqu'il était plus très jeune déjà lui-même à l'époque, et qui était de la famille la plus riche d'Avallon. Si vous connaissez le château des Vaudeluny, c'est qu'il possédait ce château, il possédait des terres autour d'Avallon, il possédait l'hôtel de Condé qui est l'actuel musée du costume à Avallon. C'était vraiment c'est la famille Jordan. Alors, la branche d'Avallon, il y a une branche lyonnaise qui a donné un célèbre mathématicien. Et comme dans les bons livres romantiques, le père de la femme, j'allais pas dire la jeune fille, mais la femme, qui s'appelait Marie Colerine, a interdit le mariage. Mais ce qui les a pas empêchés de faire un enfant, ce qui était quand même relativement scandaleux à l'époque. Et c'est sur Lançon, l'île mort, que le père a autorisé le mariage. Et ils ont vécu heureux jusqu'à la fin de la vie de Théophile en 1891. Alors il a eu une production énorme de portraits, mais aussi il vivait de reproductions de tableaux classiques. Car à l'époque de Napoléon III, de Louis-Philippe et de Napoléon III, le gouvernement français payait des reproductions d'œuvres religieuses pour mettre dans les églises de toute la France. Et moi, j'habite à côté de Dijon. Dans l'église, il y a un tableau de la Vierge avec marqué en bas « Don de l'empereur Napoléon III » pour décorer les églises. Et donc, il a vécu aussi de ça. Il y a ce tableau de la vallée du Cousin qui est à des îles Labaume, plus précisément. C'est un lieu-dit très, très joli de la vallée du Cousin qui a beaucoup changé depuis son époque. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de moulins. Et donc maintenant la rivière coule librement. Il y en a plusieurs au musée de Varsovie, au musée national de Varsovie, et donc la bibliothèque polonaise de Paris qui a fait une très belle exposition sur lui.
Est-ce que la ville d'Avallon a suffisamment rendu hommage à ce peintre polonais?
Jamais trop à mon gré, mais moi je suis jugé parti. D'abord, avec un nom pareil, c'est assez difficile de donner le nom d'une rue à un tel personnage. Il y a eu une exposition, qui était ce qu'elle était, mais je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et qui a, par exemple il a peint, on n'a pas l'original, mais il a peint un bâtiment qui est une grosse maison particulière qui porte le nom de château, qui est actuellement à la Morlande dans un quartier d'Avallon. Il a peint des petits dessins de paysans morvandiaux qui sont très très intéressants, très 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 bien fait. Je pense que parmi les peintres, les peintres avallonais, c'est intéressant, mais le terme peintre avallonais est assez pas correct, puisque en fait il était totalement inconnu. Comme il vivait dans la haute société avallonaise, en fait, je pense que ça ne devait pas trop se faire de dire qu'il y avait un peintre. Donc, il n'apparaît pas du tout dans les chroniques avallonaises du temps. Même à sa mort, il y a eu juste une petite notule dans le journal, c'est tout.
Découvrez le destin de ce peintre d'origine polonaise qui repose au cimetière d'Avallon en vous plongeant dans le livre de Marc Rosanski que vous venez d'entendre sur Radion. L'ouvrage a pour titre « Théophile Fiatkowski, un peintre polonais sur les bords du Cousin, et vous pourrez vous le procurer auprès de vos libraires aux éditions de l'Armançon. Une nouveauté sur les rayonnages en librairie, c'est aux éditions de l'Escargot Savant. Le livre a pour titre « Chemins oubliés en pays bourguignon, voie romaine, celte, royale », signé de l'historien-chercheur Alain de Certaines, qui présente à notre micro son dernier travail qui replace le chemin dans son contexte, dans son histoire et dans celle des hommes qui l'ont tracé et utilisé.
Pour écrire un ouvrage sur les chemins, je pense qu'il faut avoir une grande expérience de ces chemins, des chemins de sa région, pour pouvoir en parler et décrire les paysages, et puis en écrire l'histoire une fois qu'on a travaillé sur les archives routières.
C'est un travail très ambitieux.
Alors c'est un travail ambitieux, donc il faut, d'où la nécessité de sélectionner quelques itinéraires, là il y en a 5 ou 6, et l'avantage de cet ouvrage c'est de présenter des itinéraires d'époques différentes. Donc l'archéologie pour une voie antique, la voie d'Autun à Mâcon, les chemins médiévaux, en particulier les chemins des origines de Cluny, et puis des chemins pour des époques plus modernes, au XVIIe, XVIIIe siècle, comme par exemple le chemin des messagers du Charolais, qui était un service postal original et autonome entre Charolles et Dijon, ou le transport des vins de la Bourgogne du Sud vers la Loire au XVIIe et XVIIIe siècle.
Donc les chemins sont aussi tracés en fonction de l'activité économique humaine.
Ah, tout à fait. Un chemin, on peut dire d'une certaine manière, je vais reprendre l'expression de celui que je considère comme mon maître et qui est la personne à qui j'ai dédié ce livre, c'est Raymond Oursel, l'historien archiviste Raymond Oursel, qui disait les chemins, c'est le nerf de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le support, c'est la charpente des paysages, comme disait Rupnel, mais c'est aussi là que se rencontrent toutes les activités humaines. L'activité humaine passe forcément par les chemins. Donc, que ce soit les activités agricoles, industrielles, commerciales, etc. C'est un lien entre les hommes.
Alors, hors micro, vous me disiez finalement que certains grands axes routiers à l'heure actuelle ne sont pas forcément des héritages du passé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de garder la notion d'itinéraire. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est le sens du chemin. C'est-à-dire, à quoi sert le chemin, quelle est sa finalité, d'où vient-il, pourquoi et où va-t-il. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de chercher les différents tracés, les variations de tracés. Et ça, c'est quelque chose qui continue d'évoluer, qui continue de changer, puisqu'on le voit bien, par exemple, avec l'exemple de la Nationale 6, qu'on a connu comme axe très fréquenté, très circulé dans les années 60, et qui, dès que l'autoroute du Soleil a été construite, est devenue une voie un peu désuète, et maintenant c'est une voie de desserte départementale. Donc c'est les chemins, c'est le même itinéraire, mais décliné selon des tracés différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait pénétrer à l'intérieur, dans l'intimité d'une région, de l'histoire d'une région, c'est la variabilité de ces tracés par rapport à un itinéraire.
Il y a donc des voies, des chemins qui ont complètement disparu. Alors, aujourd'hui sont recouverts par la végétation ou par des champs, je ne sais pas.
Alors là, c'est un travail d'archéologie, et je dirais presque que c'est un peu une question de flair de retrouver aussi ces anciens chemins derrière une haie, derrière... ça on finit par... Enfin, on peut se faire aider par un certain nombre de documents, comme les cadastres napoléoniens ou les plans terriers du XVIIIe ou du XVIIIe siècle, qui permettent de retrouver des chemins disparus. Mais au bout d'un moment, on finit par avoir une certaine intuition et une intuition qui se révèle une réalité. Hein, on arrive à reconstituer des chemins, même quand ils ont disparu, on peut retrouver un tracé chemin.
C'était Alain de Certaines à notre micro pour présenter ce guide extraordinaire qui regorge d'informations inédites sur notre patrimoine et qui a pour titre « Chemins oubliés en pays bourguignon, voie romaine, celte royale » et c'est aux éditions de l'Escargot Savant. C'est la fin
de ce compte-rendu de la 16e fête du livre d'Anneaux. Avant de nous séparer, quelques informations culturelles à noter tout d'abord dans le cadre du 50e anniversaire de la mort de l'écrivain Georges Bataille. Ça se passe à la Maison Jules Roy à Vézelay le 15 septembre prochain à 18h, une conférence lecture de Geneviève Peignet, Héros et littérature, quelques textes écrits après Bataille. Autre information, c'est la tenue du 15e Salon du Livre de Saint-André en Morvan, c'est dans la Nièvre, à peu près à 20 km au sud d'Avallon, de 10h à 18h30 sur la place de l'église. Alors une trentaine d'auteurs sont invités. À signaler cette année l'invité d'honneur qui est Luc Mérandon, auteur d'un roman intitulé « Les portes de Nazca » aux éditions Les Deux Ancres et qui a reçu le prix du Lions Club 2012. Et puis, autre invité du Salon du Livre de Saint-André en Morvan, l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui est d'ailleurs maire du 18e arrondissement de Paris. Daniel Vaillant qui dédicacera son livre « PS 40 ans d'histoire ». C'est donc le dimanche 16 septembre prochain à Saint-André en Morvan. Daniel Vaillant, qu'on avait reçu l'année dernière à bord de Wagon Livre. Je mentionne à la fin du mois de septembre, les 29 et 30 septembre prochains, c'est à côté d'Auxerre, au Mont-Saint-Sulpice, le Mont des Bulles et de l'Imaginaire. C'est un festival de bande dessinée et de science-fiction, donc qui se tient sur deux jours, avec cette année comme invité d'honneur Marcel Uderzo, qui est le frère d'Albert Uderzo, lui-même illustrateur, ainsi que d'autres caricaturistes et dessinateurs qui dédicaceront leurs ouvrages. Et bien sûr, à l'extrême fin du mois de septembre, on mentionnera le très beau salon Livres en Vigne, 5e édition, cette année présidée par Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Jean-Christophe Ruffin, que vous avez pu entendre mercredi dernier sur Radion à bord de Wagon Livre. Alors, un très grand nombre d'invités, Macha Merrill, Olivier Barraud, Jean-Pierre Coff, Franz-Olivier Gisbert, Bernard Lecomte, François Dorcival, Daniel Picouli, Gonzague Saint-Brie, Romain Slocombe, Denis Tillinac, Alexandre Moy, et puis des auteurs et des éditeurs bourguignons. Alors parmi les auteurs bourguignons, j'en cite quelques-uns, Frédéric Mollet, Claudine Vincenot, Sandra Amani, Didier Cornaille, Claude Chapuis, Bernard Châtelet, Ignacio Catalan, Jean-François Bazin, Gérard Calmette, qu'on entendra d'ailleurs courant octobre à bord de Wagon Livre. C'est donc la 5e édition de Livres en Vigne en Côte d'Or au château du Clos de Vougeot les 29 et 30 septembre prochains. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec Wagon Livre, mercredi 12 septembre avec la jeune chanteuse Pauline Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Thank you.